Le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Africa.
Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Je suis ravi de vous retrouver et d'échanger avec vous sur les thèmes d'actualité qui vous préoccupent. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, lundi 24 décembre 2018, dans le JDA, le report des élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo. Ces élections devaient avoir lieu le 23 décembre, mais elles ont été reportées au 30 décembre prochain. Tout en annonçant son report, le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, a tenté de rassurer l'opinion. Il a assuré, je cite, que le report n'était pas de nature à compromettre l'élan démocratique dans lequel le pays est, selon lui, engagé. Pour vous, pensez-vous que les élections auront bien lieu le 30 décembre prochain? La RDC est-elle entrée dans une nouvelle période d'incertitude? Nous en parlerons avec Patrick Mboyo, chercheur en sciences juridiques à l'université Paris-Saclay. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00. Mais avant de s'intéresser à un autre sujet, le rendez-vous traditionnel du JDA. Vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Amis auditeurs, bonjour. L'électorat traditionnel du président Ouattara est conscient que seul le président Ouattara et le RHDP peuvent garantir les libertés et le développement. Aujourd'hui, Guillaume Soro et un certain groupuscule de personnes se couchent et se réveillent avec la courage de Mori Kanté pour faire du bruit. Alors que nous connaissons tous la réalité, lors de la dernière élection municipale, on a vu qui vaut quoi en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je suis surpris de voir encore ce même James Soro du côté d'Henri Konan Bédier. Chers amis ivoiriens, je vous dis, méfiez-vous de James Soro. James Soro fait un combat personnel. Il ne lutte pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut beaucoup, beaucoup faire attention à James Soro. Tant que James Soro sera dans l'arène politique en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. La Côte d'Ivoire n'aura jamais de stabilité politique. Idriss, bonne journée.
Chers amis, bonjour. Le mécontentement et la grogne des policiers français me rappellent au Sénégal, c'était à l'époque du président Abdou Diouf, les policiers sénégalais ont manifesté, ils ont fait grève. Le président Abdou Diouf les a tous renvoyés et les a fait remplacer par des gendarmes. Ceux qui ont cherché à revenir, à récupérer leur poste de police, devaient signer quelque chose que je ne me souviens pas de la clause. Sans doute devaient-ils promettre de ne plus recommencer les grèves, les manifestations. Quant à ceux qui ont refusé de signer pour des raisons d'orgueil et de fierté, ils n'ont pas été repris dans la police. Quand le président Abdoulaye Wade a été élu président de la République, il a récupéré certains de ses policiers. Je vous remercie.
Bonjour, amis de Julia. Bonjour, mes chers frères africains. Je vous avais toujours dit, restez au pouvoir éternellement, ne dites pas que vous êtes dictateur. Vous pouvez être dictateur, mais vous donnez vos œuvres. Aujourd'hui, on dit bien que M. Paul Kagame, je dis bien Paul Kagame, le président rwandais, il est l'homme de l'année. Après avoir gouverné son pays, il est toujours président de son pays pendant 24 ans. 24 ans, ça veut dire que les 24 ans, on a vu les œuvres. Nous tous, on voit les œuvres. Comment le Rwanda a changé? Un pays qui sort d'une grande guerre, on ne peut pas compter les nombres de morts. Mais cet homme, M. Kagame, Paul Kagame, qui est l'homme de l'année, je veux dire à certains dictateurs africains, le fait de mettre l'homme au pouvoir, ce n'est pas ça le problème. C'est le fait de mettre l'homme au pouvoir, ne rien faire pour sa population. Ruiner sa population, rendre sa population pauvre, c'est ça le mal de l'Afrique. M. Paul Kagame, moi-même je vous dis, étant africain, et je suis content pour cet homme. Vous-même, vous voyez les œuvres qu'il a fait pour le Rwanda. Vous-même, vous voyez, il peut devenir un roi de son pays parce que la population l'aime. Avec ce qu'il fait pour la population, on l'acclame haut et fort. Je dis que c'est comme ça, un bon président doit gouverner. Que le bon Dieu bénisse ce beau pays qui sort de loin. Merci.
Bonjour, amis de Judéa, Congolais et Congolaises de la RDC. Plus rien ne sera comme avant. Tout doit changer et tout va changer. Alors, je demande à M. Félix Tshisekedi d'être à côté de son frère Fayulu. Car travailler avec M. Kamere, c'est donner à l'avantage à Kabila. Kamere, c'est un pion envoyé par M. Kabila. Donc, pour gagner les élections, Félix, s'il vous plaît, restez avec ton frère Fayulu. Car si tu ne fais pas ça, Chadari sera toujours le gagnant. Ça, il faut le savoir. Donc, s'il vous plaît, Félix, ne soyez pas gourmand. C'est le moment de libérer le pays. Sinon, ça te coûtera cher et IDP sera sanctionné. Merci, Simfoumoumata. Ciao.
Bonjour le monde, bonjour l'Afrique. Je suis congolaise de l'RDC. Je viens laisser ce message pour appeler à toute Congolais, là où se trouvent les Congolais dans le monde entier, de ne pas accorder à Nanga même 30 minutes. Dimanche, on a besoin des élections. S'il n'y a pas les élections, que le peuple congolais se lève pour récupérer l'air d'unité. On est devenu le peuple le plus humilié au monde. Nanga ne peut pas donner une raison qu'on rapporte les élections parce qu'on a brûlé la machine. C'est eux-mêmes qui ont brûlé la machine à voter. S'il vous plaît le monde, s'il vous plaît l'Afrique, il ne faut pas croire à Nanga que dans 5 jours, il va organiser les élections présidentielles. Pendant 2 ans, ils n'ont pas pu organiser les élections présidentielles. Moi, je vois mal qu'ils vont les organiser si on les accorde les 5 jours. Qu'on ne les accorde jamais les 5 jours, s'il vous plaît. Et j'appelle la communauté africaine CDAO de voir ce qui se passe. Si l'Afrique, le Congo tombe, toute l'Afrique, les grands lacs vont tomber avec les Congos. S'il vous plaît, il faut avoir un peu pitié. Il faut intervenir. Notre candidat commun de l'opposition, Martin Fayulu Madidi, est en danger. Si l'Afrique, nous-mêmes, on peut faire quelque chose pour notre continent, parce qu'on a aussi notre organisation à nous qui s'appelle CDAO. S'il vous plaît, si vous pouvez intervenir pour les Congos démocratiques, s'il vous plaît. Merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui donc, dans le JDA, le report des élections en République démocratique du Congo. Le président de la CENI, la Commission électorale indépendante, Corneille Nangaa, a annoncé le report des élections au 30 décembre prochain en évoquant plusieurs raisons, notamment la destruction du matériel électoral dans un incendie d'un entrepôt à Kinshasa il y a une dizaine de jours, les violences ethniques qui ont fait des centaines de déplacés vers le Congo-Brazzaville, ainsi que l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en RDC. Tout en annonçant son report, Corneille Nangaa a tenté de rassurer l'opinion. Il a assuré, je cite, que ce report n'était pas de nature à compromettre l'élan démocratique dans lequel le pays est selon lui engagé. Nous avons bel et bien entamé le dernier virage vers les élections, a promis Corneille Nangaa. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Patrick Mboyo, bonjour.
Bonjour Nadir Jedad.
Bonjour les auditeurs d'Africa numéro 1. Vous connaissez bien, vous intervenez régulièrement sur ce plateau. Vous êtes chercheur en sciences juridiques à l'université Paris-Saclay et vous suivez de très très près l'actualité politique en RDC. Pensez-vous que les élections auront bien lieu le 30 décembre prochain ?
Vous savez, en me présentant, vous avez dit que je suis chercheur en sciences juridiques à l'université Paris-Saclay. Cela veut dire que les auditeurs attendent de ma part une vision scientifique et objective. Et je dirais que ce serait une insulte à l'intelligence d'affirmer au micro d'Africa numéro 1 qu'il y aura élection le 30 décembre en République démocratique du Congo.
Donc, c'est-à-dire
je ne peux pas affirmer qu'il y aura élection le 30 décembre parce que tous les éléments, tous les indices indiquent que rien n'est valable aujourd'hui pour pouvoir affirmer, pour pouvoir organiser ces élections de manière crédible, transparente et de manière apaisée. Parce que la semaine dernière, on attendait environ quelques tonnes, plus de 10 tonnes de bulletins de vote et de PV. Qui devaient être des bulletins de vote et des PV qui devaient arriver de la Corée. Et aujourd'hui encore, nous attendons près de 3 millions de bulletins pour Kinshasa, qui ne sont toujours pas encore arrivés. Alors, je ne vois pas dans un pays qui fait 2 345 410 km² sans infrastructure routière valable, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune autoroute au Congo, sans chemin de fer convenable, sans réseau aéroportuaire sécurisé, comment on va pouvoir dispatcher ce matériel? Je ne peux pas, ce serait vraiment une insulte à l'intelligence, comme je l'ai dit, de pouvoir dire que ça aura lieu, ces élections, ce dimanche 30 décembre à Kinshasa.
Alors officiellement, ce report est provoqué essentiellement par la destruction d'environ 3,5 millions de bulletins de vote dans l'incendie du 13 décembre à Kinshasa. Corneille Nanga l'a évoqué, mais cet incendie est suspect aux yeux d'un certain nombre d'observateurs. Quel est-vous, votre avis?
Oui.
Est-ce que cet incendie est suspect?
Oui, les gens se posent des questions et ils ont le droit de se poser ces questions. Parce que 8 000 machines ne peuvent pas être volatilisées dans un incendie de manière aussi ostentatoire. Quoi. C'est incroyable. Oui. C'est inimaginable. Bon, j'ai entendu un des ministres au Congo. Bon, vous savez, au Congo, on a entendu beaucoup de choses. J'ai déjà entendu un ministre au Congo dire que le fleuve Congo s'est asséché une fois, ce qui est inimaginable parce que le fleuve Congo est un fleuve à cheval entre les tropiques du Cancer et les tropiques du Capricorne, c'est-à-dire c'est l'un des rares fleuves à débit constant. Ça peut pas s'assécher. Et là, j'entends un ministre qui vient encore de dire, il y a pas longtemps, que les machines à voter sont constituées essentiellement des plastiques et que ces plastiques, après avoir brûlé, ne laisse aucune trace. Donc, je demande à tout un chacun de tenter une expérience, de prendre même un sac plastique, n'importe quel sac plastique, brûlez-le.
Oui.
Vous allez voir qu'à la fin, ça va laisser un résidu compact, solide et dur. À l'intérieur des machines, ce n'est pas que des plastiques. Il y a des composants en aluminium, en étain et tout. Bon, je ne veux pas me lancer dans ces genres de débats qui sont complètement stériles avec des personnes qui ne comprennent rien ou qui veulent prendre tout le monde pour des imbéciles, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est que les machines ont brûlé, oui, c'était pas dans une fournaise ardente. Où sont les restes?
D'accord.
Où sont, on peut pas dire que d'un côté, il y avait sur 10 000 machines, 8 000 qui ont brûlé, bim, et puis le feu s'est arrêté justement sur une ligne rectiligne pour laisser les 2 000 ou 3 000 autres. On ne comprend pas ce qui s'était passé. Il n'y a qu'au Congo, avec la logique du pouvoir de Kabila, qu'on peut entendre ces genres de choses.
Merci d'intervenir sur l'antenne d'Africa numéro 1. Je vous rappelle le numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00. Le 01 55 07 58 00. Nous allons prendre un premier auditeur. Mamadou, bonjour.
Bonjour, monsieur. Excusez-moi, monsieur Jalil. Comment allez-vous?
Ça va, merci, très bien. Et vous, ça va?
Ça va. Tout d'abord, je salue tous mes collègues de Gonesse et je les souhaite bonne fête à tous les auditeurs d'Africa Numéro 1.
Merci beaucoup. Merci.
Et moi, en fait, j'ai pas grand-chose à dire. D'abord, je félicite tous les frères congolais qui ont manifesté samedi sur le boulevard Magenta. J'étais pour les soutenir et je continue encore à les soutenir. Je voulais juste dire à tous les Congolais, que ce soit ici, les diasporas, au Congo, là-bas, que je salue surtout l'invité.
Oui.
Il vient de nous confirmer qu'il ne peut pas nous dire, on se dit qu'il y a des élections à Lyon le week-end prochain au Congo. Ce que les dirigeants n'ont pas réussi à faire en 2 ans, en 5 ans, plus 2, ça fait combien? 7 ans.
Oui.
Donc le Moussa, il n'a pas réussi à organiser l'élection entre ce temps-là. C'est pas en une semaine que Corneille Nanga va nous organiser ça.
D'accord.
Donc moi, je souhaite que tous les Congolais aillent devant le palais, qu'on attrape ces assassins. Tous, qu'on les met en prison. Et puis l'élection, on verra ça dans l'avenir. Mais parce que là, il n'y a pas d'élection au Congo.
D'accord.
Ils arrêtent de jouer avec la population. La population en a marre.
Donc, merci Mamadou, merci pour votre... je comprends votre colère, mais merci d'intervenir sur notre antenne. Nous avons en ligne Nadine. Nadine, bonjour.
Bonjour Nadir. En fait, c'était pour juste demander, vous dire que est-ce qu'il n'y avait pas un autre pays dans la SADC qui pourrait accueillir ses opposants et ses personnes pour les discussions? Au Congo, par avis, c'est la pire dictature au monde. Qui n'existe jamais, qui n'existe pas au monde. Mais pourquoi ils ont choisi ces pays? Parce que c'est à côté, il y a d'autres pays, non? Pour aller pouvoir... une discussion démocratique ne peut pas avoir lieu dans ces pays.
Oui, Patrick Mboyo va vous répondre.
Je comprends un petit peu ce que Nadine veut dire. Vous faites allusion au rendez-vous, à l'audience que le président Sassou Nguesso a accordé la semaine dernière à M. Adolphe Mouzitou en tant que membre du collectif Lamouka et représentant de Martin Fayoulou. En fait, c'était dans le cadre des contacts diplomatiques parce qu'ils se sont dit qu'en tant qu'un candidat, il ne peut pas se limiter simplement à faire sa campagne au Congo, mais il doit aussi nouer des relations diplomatiques et montrer que c'est un homme d'État. C'est ainsi qu'Adolphe Mouzitou est allé le représenter auprès du président Sassou Nguesso. C'était la semaine dernière, mais je ne pense pas que c'était dans le cadre d'un dialogue avec le pouvoir de Kinshasa. Mais la SADC est pleinement impliquée, ou la SADC est pleinement impliquée dans la situation électorale et politique actuellement en République démocratique du Congo. Soyez-en sûrs.
Merci.
C'est juste pour ajouter que si vraiment Sassou est impliqué dedans, c'est perdu d'avance. Hein. Il n'acceptera jamais que les Zaïre, je veux bien le dire des choses, les Zaïre soient démocratiques. Sinon, lui, il part les jours même aussi.
D'accord. Très très bien Nadine, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Alors Patrick Mboyo, est-ce que l'objectif du gouvernement est d'assurer le bon déroulement du scrutin seulement à Kinshasa, tout en sachant qu'il ne pourrait peut-être pas l'organiser dans d'autres villes ou régions du pays ?
Le pouvoir de Kabila l'a montré de toutes les manières qu'il n'est pas disposé ou il n'est pas capable d'organiser les élections convenablement. Ce n'est pas que Kinshasa, c'est même tout le reste de la République démocratique du Congo. Parce que selon les données que j'ai reçues ce matin, il y a 166 tonnes de PV, de fiches de résultats qui devaient arriver la semaine du 17 décembre. Et là, c'était avant qu'on puisse nous annoncer que l'élection du 23 décembre allait être reportée. 166 tonnes, je précise bien. PV et fiches de résultats à afficher et dont les déploiements devaient être faits sous 10 jours.
D'accord.
On était mardi, quand ces chiffres ont été communiqués, et les élections devaient avoir lieu 5 jours plus tard, alors que le déploiement demandait techniquement, et quand on parle de déploiement, on prend technique, on prend toujours le minimum 10 jours, sans compter les aléas, sans compter les cas d'avarie et tout le reste. Et il y a 3,5 millions de bulletins de vote qui sont imprimés en Corée. Je rappelle que la Corée n'est pas à côté. Pour aller en Corée, on doit passer par l'océan Atlantique, traverser le Cap de Bonne-Espérance, remonter l'océan Indien et traverser tout l'océan Indien pour arriver jusqu'en Corée. Et ça ne peut pas arriver par avion non plus, il faut que ça arrive par bateau. Je ne vois pas quel est cet affréteur qui peut prévoir un bateau pour faire arriver ces gens de contingents en 8 jours. Je n'en vois pas. Un avion, ça coûterait encore énormément d'argent. C'est encore le contribuable congolais qui est en train de perdre de l'argent dans une désorganisation qui n'aboutira à rien de bon, à rien de concret, parce que le résultat sera de toutes les façons contesté et il y aura toujours des problèmes derrière.
Très bien. Alors, il y a un candidat à la présidentielle, Théodore Ngoï, qui a proposé un report de 3 mois pour cette élection.
Oui, tout comme un autre candidat aussi avait proposé un report d'un mois, comme certains auraient voulu que ça se fasse dans 6 mois. À un moment donné, il faut être responsable. Je pense que quand on aspire à être chef de l'État, il faut savoir respecter les règles. Dites-moi aujourd'hui, quelle est cette organisation, même sportive, qui peut aujourd'hui confier à la RDC l'organisation d'un événement sportif? La Coupe d'Afrique des Nations, de foot, de basket, de tout ce que vous voulez. Parce que c'est un pays où on ne respecte pas les dates. On parle, au Congo, on dit souvent, il ne faut pas faire le fétichisme.
C'est ça, mais justement, le pays a perdu. Autorités compétentes d'un pays.
Le pays a perdu toute crédibilité parce qu'on s'est dit, ces gens qui sont incapables de respecter les échéances fixées constitutionnellement, comment peuvent-ils être capables pour pouvoir organiser un événement sportif ou une rencontre internationale dans les délais qui sont fixés normalement? Donc, pour moi, j'ai de la peine pour ce pays qui est tombé tellement bas et qui ne mérite pas ça du tout.
Oui. Alors, on parlait des candidats, il y en a deux, il y a plusieurs candidats, notamment Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, qui ont accepté le principe du report, mais refusent d'arrêter la campagne électorale. Ont-ils raison de continuer à faire campagne, selon vous, dans ce contexte d'incertitude concernant le déroulement du scrutin?
On pourrait dire oui, on pourrait dire non, parce que la loi électorale dit à ce propos que la campagne électorale dure 3 jours. C'est un même texte, il n'y a même pas d'alinéa. Dans un même texte, dans une même phrase, il est dit, première proposition, la campagne électorale dure 30 jours et s'arrête 24 heures avant le scrutin. Donc, si on doit faire de l'interprétation juridique, ce n'est pas à la CENI de le faire, ni au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il y a des gens qui sont formés, spécialisés, qui font des études des années et des années pour être capables d'interpréter un texte juridique. Dans ce sens, qu'est-ce que moi je pourrais dire comme juriste? L'esprit de la loi, c'est déjà que la campagne électorale doit se faire dans un délai raisonnable de 30 jours pour que les candidats soient en contact avec leurs électeurs. Et pour pouvoir permettre aux électeurs de pouvoir se décider sereinement, cette campagne doit s'arrêter au moins 24 heures avant le jour du vote afin que chaque électeur soit capable de s'imprégner de tout ce que les candidats ont pu dire. Dès lors, comme le délai était fixé de 30 jours, c'est un délai qui est fixe par rapport à la date de l'élection. À partir du moment où la date de l'élection, du vote, a été repoussée, mon interprétation juridique, c'est que la campagne électorale doit, par voie de conséquence, continuer de telle sorte que les candidats puissent continuer à demeurer en contact avec les électeurs, leurs futurs électeurs, sorte que on ne puisse pas casser le rythme, parce que pendant ces temps, on ne sait pas qui fait campagne et qui ne fait pas campagne. Curieusement, les affiches et les plancards et les autres banderoles sont affichées dans tout le reste du pays, c'est pas un problème. Mais quand on passe, on voit un message électoral de tel candidat et de tel autre, on ne peut pas voir. Donc, c'est une inégalité. On viole le principe d'égalité du scrutin et on viole l'esprit de la loi.
Alors, nous avons en ligne Pasteur. Pasteur, bonjour. Allô? Pasteur, vous nous entendez?
Oui, oui, je vous entends.
Oui, on vous écoute.
Oui, bonjour. Bonjour à votre invité, monsieur.
Bonjour.
Merci pour vos analyses, hein, toujours aussi pertinentes, effectivement.
Merci.
Et je voulais effectivement abonder dans votre sens. C'est vrai que quand on regarde d'une manière objective, on voit pas comment les élections pourront être organisées, parce qu'il y a des éléments qui ne trompent pas, tout ce que vous avez cité, objectivement. Et puis, je pense la volonté, je crois vraiment qu'il n'y avait pas la volonté de l'organiser. Si toutefois, il y a élection, j'ai bien peur que ça soit juste pour pouvoir valider le candidat du pouvoir, pour officialiser donc sa prise de pouvoir. Mmh. Et puis, je crois surtout avec les mouvements des troupes qu'on observe, il y a certaines images qui circulent où on voit des troupes qui sont en train d'être positionnées.
Oui.
Je pense que le pouvoir se prépare. Il y a aussi des alertes qui ont été lancées, même si la CPI, nous n'attendons rien d'eux, puisqu'ils lancent toujours les alertes. Et puis, quand il y a les massacres, ils ne font rien. Il n'y a rien qui est fait, pas d'enquête ouverte, rien du tout. Et donc, là, toutes ces choses-là, je pense, donnent des indications pour dire que je pense que les élections, même s'il y a, ça sera difficile pour pouvoir dire en sorte dire que ces élections seront vraiment libres et transparentes.
Mmh.
Et j'avais une question à poser par rapport aussi aux élections toujours.
Oui.
Nous avons ressenti, nous ici, hein, peut-être de l'extérieur, je ne sais pas dans le pays, mais nous ressentons une forme de dynamique en ce qui concerne la candidature de M. Martin Fayoulou. Donc, par rapport à ça, est-ce que M. Mboyo peut nous dire comment est-ce qu'il voit les choses? Parce qu'aujourd'hui, les sondages sont difficiles à voir avec le pays, hein, parce que c'est, on ne sait pas comment les interpréter, chacun fait plus ou moins à sa manière. Et est-ce que, par rapport, s'il y a des élections libres et transparentes, qui, lui, sans pouvoir s'engager, hein, j'ai dit bien, hein, parce que voilà, il n'a pas à prendre part pour qui ou pour celui-là ou pour autre, mais objectivement parlant, qui aujourd'hui vraiment peut avoir une dynamique qui pourrait faire en sorte qu'il puisse peut-être gagner des élections si l'élection était libre et transparente, en fait. Mmh. C'est ça ma question pour M. Mboyo.
Merci beaucoup, Pasteur. Et avant de donner la parole à Patrick Mboyo, juste pour abonder dans votre sens, nous avons constaté effectivement, lors d'un reportage réalisé récemment, que beaucoup de Congolais de la diaspora, effectivement, portent beaucoup d'espoir envers Martin Fayoulou. Donc, Patrick Mboyo.
Oui, Martin Fayoulou bénéficie un petit peu d'une aura ou d'une soif populaire. C'était un défi lancé aux leaders de l'opposition, les L7 à l'époque, y compris Kamere et Tshisekedi, de pouvoir mettre de côté leurs égos personnels, démesurés parfois, et mettre de côté leurs égos et arriver à faire sortir un candidat unique. Ils sont allés à Genève et ça s'est produit. Il y a eu un candidat à la personne de Martin Fayoulou. C'était une surprise, personne ne l'attendait. Mais moi, j'inscris la désignation de Martin Fayoulou au même titre que ce qui a été fait en Gambie avec Adama Barrow. Adama Barrow était chef d'entreprise et membre du PDU, le Parti démocrate unifié de la Gambie. Il a été désigné candidat commun d'une plateforme des oppositions comme Martin Fayoulou le 30 octobre pour affronter Yahya Jammeh le 1er décembre.
Oui.
Donc il n'avait pratiquement qu'un mois pour pouvoir se faire connaître du grand public. Quand il a été désigné, il n'était pas connu du grand public. C'est vrai qu'il était Adama Barrow, à l'époque membre du bureau du PDU, mais il était vraiment quelqu'un qui n'était pas du premier plan, comme Martin Fayoulou. Martin Fayoulou était un élu de Kinshasa, connu à Kinshasa, dont l'intégrité et la probité dans le milieu des affaires était connue, mais simplement il n'avait pas cette envergure qu'il a aujourd'hui. Mais
d'accord,
le fait que le peuple a vu qu'il y a cette soif qu'il avait a été concrétisée par la désignation de cet homme qui est aussi très sympathique et qui n'hésite pas à mouiller le maillot pour aller au contact des gens, et c'était surtout pour transmettre un message au monde entier qu'il y a un rejet quasi unanime du régime de Joseph Kabila. C'est pour cela qu'on a vu Martin Fayoulou drainer autant de foules et avoir autant de succès, jouir d'autant de sympathie, que ce soit sur les nets ou encore sur le terrain.
Alors nous avons en ligne Bobo. Bonjour.
Je vais poser la question au professeur.
Oui.
On appelle. Bonjour, professeur. Je voulais savoir.
Bonjour, je ne suis pas encore professeur, mais je le serai très prochainement.
Ah bon, ce n'est pas grave. Vous voulez que déjà par la grâce. Bon, ce que je vais vous
merci.
Dire, tous les Congolais plairent, bien entendu, parce qu'on en a marre. Le mal est là,
oui.
est ancré sur nous.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y en a pas des têtes comme vous, comme les autres, des informaticiens qui peuvent trouver une solution pour contrer ces machines, même à distance? Est-ce qu'on aura toujours à plaire Kabila a mis les choses, Nanga fait ça, nous voyons ce qu'on vient d'énumérer là, des militaires par-ci, Nanga qui imprime des cartes au nom de Chadari, on voit ça dans les nets.
Oui,
est-ce qu'il
oui.
n'y en a pas des têtes bien faites, des Congolais qui peuvent contrer ça? Voilà la question. Au lieu de pleurnicher, trouvons des solutions les plus immédiates, simples.
Oui, d'accord.
Est-ce qu'il n'y en a pas ça?
Très bien, Bobo, merci pour votre question, votre réaction. Nous allons tout de suite faire agir Patrick Mboyo, mais nous avons en ligne un autre auditeur, Olivier. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Bonne fête à tous les auditeurs d'Africa numéro 1.
Merci, bonne fête à vous également.
Et bonne fête à notre invité, le futur professeur.
Merci,
d'accord.
C'est
par
gentil. Vous aussi.
Par rapport à ceci, j'ai bien suivi son analyse,
oui.
l'analyse qu'il vient de faire pour la tenue de ces élections qui est vraiment improbable.
Oui.
Donc
oui.
je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc ça va être un peu difficile pour que tous ceux qui n'en attendent puissent arriver à l'air.
D'accord.
Il a eu trop de temps, deux ans, presque deux ans et demi, pour organiser ces élections. Il n'arrive toujours pas.
D'accord.
Donc, on met la communauté internationale en défi. Ils sont en train de voir ce qui se passe.
Oui.
C'est eux qui ont placé ces dictateurs. Donc, c'est à eux de prendre les choses à main.
D'accord.
Donc, pour essayer, ou soit la population va se soulever pour faire partir ces gouvernements.
D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, pour votre intervention. Alors, Patrick Mboyo, d'abord, est-ce que vous confirmez l'information que donnée par plusieurs auditeurs, à savoir donc des troupes qui se préparent
Il y a en effet des mouvements des troupes qu'on observe. Bon, ça peut s'expliquer de deux manières. Il faut faire très attention. Soit c'est de l'intoxication de l'Agence nationale du renseignement ANR avec son patron Kalev Mouton, que je connais très bien et dont je connais bien aussi les stratégies. Ça arrive souvent comme ça pour pouvoir un petit peu écœurer, voire effrayer la population pour que les gens ne soient pas en mesure de réagir. Mais je vais dire quelque chose à la population. Vous voyez ces hommes en tenue militaire. Prenez la photo, faites ce qu'on appelle Photoshop, enlevez-leur la tenue militaire, mettez-leur la tenue civile, ce serait un bateau ou un train ordinaire qui passerait. C'est-à-dire, entre ceux qui portent les armes et la population, la seule différence, c'est seulement qu'eux, ils portent la tenue. Mais la volonté, la rage de vaincre doit se trouver du côté de la population. Et quand la population est déterminée, comme on a vu ici en France, moi, je ne suis pas pour la violence. Mais je me dis que le gilet jaune n'aurait pas obtenu ce qu'ils ont obtenu s'il n'y avait pas eu saccage de l'Arc de Triomphe. Je ne suis pas pour la violence, mais je me dis que c'est un fait. Ça avait stupéfait la France parce qu'on a compris que les gens étaient déterminés. Les Congolais doivent arrêter de pleurnicher comme des enfants, la SADC ou les autres. Personne ne viendra libérer le Congo. Chaque pays a ses propres problèmes. Parce que si aujourd'hui le Congo devient une grande puissance...
Mais les Congolais ont déjà manifesté. Il y a eu des mouvements de la société civile qui se sont organisés et qui ont pu manifester.
Justement, malheureusement, ce sont des mouvements qui s'essoufflent très vite. Regardez ce qui se passe en France. Les gens sont dehors sous moins 3, moins 5 degrés. Chaque samedi, moi, je vais faire des observations sur le terrain sur le mouvement des Gilets jaunes pour comprendre le phénomène de ces mouvements. Et je suis avec des gens qui sont là toute la journée du matin au soir dans les températures négatives. Au Congo, on a des températures plutôt clémentes.
Parce que vous dites que pour faire reculer le pouvoir, il faut qu'il y ait
de la détermination en RDC. Il faut qu'il y ait simplement de la détermination, au moins comme celle des Gilets jaunes. Pour ce qui concerne les têtes bien faites, comme le monsieur l'a dit, il y a beaucoup de Congolais qui sont bien instruits, qui sont des têtes bien faites dans le monde. Partout où je suis allé dans le monde, j'ai vu des Congolais intelligents dans les grandes universités au monde. Mais le problème, c'est simplement que ces personnes, on a tous un problème pour rentrer au pays parce qu'on s'est dit, c'est tellement rempli des personnes qui marchent un petit peu sur la tête, qu'on se demande, est-ce qu'une personne aussi intelligente soit-elle quand il arrive sur place, qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez, monsieur, tous les intellectuels qui sont partis, qui ont été formés en Europe, qui sont aujourd'hui au Congo, à commencer par tous les autres, tous ces gens-là, je vais pas citer des noms, mais regardez comment ils raisonnent arriver sur place. Nous, moi personnellement, je me suis dit, on se fédère autour de la personne, on est un réseau, on se fédère autour de la personne de monsieur Denis Mukwege, un intellectuel comme nous, oui. qui a dit, il faut que Kabila parte, qu'il démissionne.
Oui.
Si aujourd'hui un monsieur comme Mukwege arrive, on est prêt à travailler. Si un monsieur comme Fayulu arrive, c'est un intellectuel, un homme intelligent, on est prêt à travailler avec lui. Si aujourd'hui on a des gens capables de comprendre ce que la valeur de l'intelligence, on est capable de travailler. Mais si on a en face de nous des personnes qui comprennent pas la valeur de l'intelligence, qui transforment les intellectuels en turiféraires ou en danseurs du ventre, alors c'est inutile d'aller perdre son temps au Congo.
Très bien. Nous avons ligne Malcolm. Malcolm, bonjour. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute. Bienvenue.
Oui, bonjour, bonjour. Bon, merci. Bonjour à votre invité. Bonne année
bonjour.
À tout le monde. Joyeux Noël, pardon.
Merci.
À tout le monde. Mais je voulais poser une question à votre invité et je vois vraiment ses futurs professeurs. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce qui se passe au Congo, par rapport à Nanga, par rapport au Kabila, par rapport aux militaires,
oui.
moi, ce que je demande, pourquoi vous, les intellectuels, vous appelez pas? Parce que tout le monde en attend que Fayulu ou Félix, si ce qu'il dit, appelle au soulèvement populaire au lieu d'attendre 7 jours, 1 mois, les autres, là, tout ce qui se parle. Nous, on voit bien qu'on est encerclé par tous ces militaires. Moi, mon fils, hier, il m'a appelé, il m'a dit, papa, ici à l'Unité, à l'échangeur, il y a plein de militaires rwandais. Ils sont là, ils sont tous installés ici. Pour, tous ces militaires, ils sont venus, ils sont pas venus.
Mais comment savez-vous qu'ils sont rwandais? Excusez-moi, excusez ma question.
Mon fils, il a 25 ans.
Oui.
C'est pas un gamin. Donc tout le monde, mais mon petit frère aussi, tout le monde, il le voit.
D'accord.
Même lui-même, les professeurs, ils viennent de dire que tous ces militaires, ils viennent de le dire.
Oui.
Ils viennent d'arriver, on les voit dans les lettres, dans des bateaux. Tous ces gens. Il y a un auditeur qui vient de soulever quelque chose là, qu'il a dit, il est content pour ce que Kagame il fait dans son pays.
Oui.
Tout ce que Kagame il fait dans son pays, toutes ses richesses, il les prend où? Il est avec le sang du peuple congolais. Du peuple congolais, et même le nom du Congo, là, il faut qu'on le jette.
Non, s'il vous plaît, non.
Oui, ça part un peu dans tous les sens, ça fait comme les gilets jaunes.
Le nom d'Isaïe, parce que c'est le nom du Congo.
D'accord.
On va amener des problèmes avec tous ces gens. Il faut appeler le peuple de se soulever.
D'accord, Malcolm.
D'encercler tous ces militaires, un point, c'est tout.
Merci, merci Malcolm, merci pour votre intervention. Alors, Patrick Mboyo, alors que peut-il se passer hein, si il n'y a pas d'élection comme prévu, comme annoncé hein, par le président de la CENI le 30 décembre?
Je vais répéter quelque chose que j'avais dit lorsque j'étais invité par Stéphanie Hartmann dans cette même émission, à la mort de Étienne Tshisekedi. J'avais dit que beaucoup de gens étaient déçus de la mort de Tshisekedi, Étienne, le père, parce que lui, au moins, il avait la capacité de dire un mot et puis le peuple s'est mobilisé. Mais on doit comprendre qu'une nation passe au-dessus de toute personne, aussi providentielle soit-elle. Il n'existe pas déjà de personnes d'hommes providentiels ni de femmes providentielles. Mmh. Il faut que les Congolais comprennent que les politiciens qui sont sur place ne donneront jamais. Alors moi, je dis tel que ça se présente. Peut-être je peux me tromper sur ce point. Ce serait intéressant que je me trompe. Pour une fois, j'ai vraiment besoin de me tromper dans mes analyses. Mais tel que je les vois là, ils ne sont pas prêts un jour à donner un mot d'ordre à la population pour s'élever contre le pouvoir de Kabila et le chasser. Pourquoi? À chaque fois qu'ils veulent qu'il y ait des événements au Congo, ils regardent tous la CPI. Et Mme Bensouda a une fâcheuse habitude. À chaque fois qu'il y a des tensions au Congo, elle fait sortir un communiqué. La CPI est en train d'observer ce qui se passe. Ça, c'est pour donner un message subliminal aux politiciens.
Ce que vous dites, c'est
politiciens.
Que tous les candidats, beaucoup de candidats ont peur de la CPI.
Ont peur de la CPI parce
même
qu'ils
des candidats comme Martin Fayulu.
Exactement. Ils se disent que déjà, ils ont peur de deux choses. Si ça ne marche pas, ils seront fusillés par le pouvoir de Kabila. S'ils ne sont pas fusillés par le pouvoir de Kabila, c'est la CPI qui va les attraper. Or, on ne fait pas une révolution ou un coup d'État, excusez-moi, ça se prépare comme ça, il y a un risque. Soit vous y allez et vous gagnez, vous êtes héros, soit vous y allez, vous cassez les dents et vous êtes fusillé le lendemain. Mmh. Attendez peut-être plus tard quand d'autres générations viendront pour pouvoir reconnaître la valeur de ce que vous avez voulu faire. Mais au moins, il faut tenter quelque chose et personne dans cette classe politique n'a aujourd'hui le cran de pouvoir faire cela. Denis Mukwege l'a dit, il faut que Kabila parte.
Oui.
Il l'a dit clairement. Mais il n'est pas politicien. Il draine combien de gens derrière lui, à part que sa parole est bien écoutée. Il ne faut pas confondre ceux qui ont la parole écoutée, comme nous autres, et les politiciens qui drainent les masses.
C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Mboyo, d'être présent, d'être venu sur le plateau d'Africa numéro 1. Merci beaucoup aux auditeurs pour vos appels. Vous étiez très nombreux à appeler, à réagir. Merci à Hélène Bizio pour la réalisation de cette émission. Continuez le débat sur notre page facebook.com/journal des auditeurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa numéro 1. Et nous parlerons d'une autre élection. C'est celle qui s'est déroulée au Togo. Il y a quelques jours.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.